Seigneur, on vient te remercier pour le temps qu'on a ce soir dans ta présence. Ce qu'on désire, Seigneur, c'est que tu parles à nos cœurs, que tu viennes continuer l'œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur. Parce qu'on reconnaît que cette œuvre que tu fais en nous, ça vient de ton esprit. On est incapable de faire quoi que ce soit, mais on compte sur ta force, Seigneur. On compte sur ton zèle, ton feu que tu vas nous communiquer, Seigneur, pour aller de l'avant et pour faire ce qu'on a à faire. Et Seigneur, on remet cette réunion entre tes mains, afin que tu nous conduises par ton Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs, que tu nous changes, que tu nous équipes, que tu nous fortifies. Je te remercie, Seigneur, de l'œuvre que tu vas faire parmi nous. Agis avec une pleine liberté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont mariés et qui se sont mariés pour le meilleur et pour le pire? Est-ce qu'il y en a qui se sont mariés avec en partant n'ayant pas l'intention d'aller jusqu'au bout? Ouais. Dieu, quand il a donné ce principe-là, que l'homme se quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront qu'une seule chair, il y avait un but que ça demeure jusqu'à la fin. Puis il dit un peu plus loin, Jésus, il parlait aux gens qui l'entouraient, qui le questionnaient sur le mariage, puis il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, parce que le mariage est quelque chose que Dieu tient à cœur, puis il veut que nous autres mêmes on tienne à cœur à cela et qu'on travaille à garder le cap dans notre objectif, à marcher ensemble puis à vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Je sais que des fois, il y aurait des situations où il y a des cas particuliers où ce que les gens se sont séparés, mais en général, le Seigneur veut qu'on lâche pas puis qu'on garde le cap. On se marie, puis c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une des plus grandes valeurs de ce monde présent. Une des plus grandes valeurs enseignées dans la parole de Dieu, parce que ce principe-là du mariage existe depuis le début de la création, mais cette valeur qu'aujourd'hui les gens ont comme mis en oubli ces choses-là. Mais combien est-ce qu'il y en a parmi vous quand ils ont donné leur vie au Seigneur? Ont donné leur vie au Seigneur pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort rejoigne le Seigneur. Puis ça, c'est encore un autre principe que le Seigneur veut qu'on ait dans notre cœur, qu'on ait un cœur pour le Seigneur, puis être prêt à affronter n'importe quelle situation en gardant la foi. Parce que le Seigneur, il veut qu'on persévère jusqu'à la fin, puis il veut qu'on se retrouve avec lui. Merci Seigneur de nous donner qu'il y a des gens ici à Châteauguay qui aiment le Seigneur, puis qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. C'est là-dessus qu'on va parler ce soir. Dans le but de fortifier notre foi, que des fois ça peut arriver qu'il y a des moments difficiles, des fois qu'il peut arriver dans notre vie chrétienne qu'on ait des moments difficiles, mais il faut persévérer pour le meilleur et pour le pire. Yeah. Suite aux menaces qu'on voit présentement aux États-Unis, les attentats terroristes, ça m'a amené à quelques réflexions. Parce que par les médias, on voit qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de problèmes de ce qui se passe dans le monde. Il y a des souffrances par les dictateurs. On peut voir dans certains pays où il y a des dictateurs qui règnent dans ces pays-là. Les gens, ils n'ont aucune liberté, même pas une liberté de voter pour changer le gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui s'est pris par la force pour régner. Ils n'ont aucune liberté d'expression, aucune liberté de faire quoi que ce soit. Ils sont dirigés de A à Z dans tout ce qu'ils ont à faire, puis ils sont très limités, ils sont abusés par les gouvernements. Puis ces gens-là, ils manquent de tous les besoins essentiels, comme de l'eau, de la nourriture, des médicaments, le vêtement. Puis on entend souvent parler que dans ces pays-là, il y a des sécheresses, puis il y a des guerres, puis toutes sortes de souffrances que les gens traversent présentement dans ce monde. Parce que ces choses-là, c'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose qui se passe présentement à l'an 2001. Les médias nous informent de tout ce qui se passe en dehors. On voit la souffrance, on voit la misère, on entend parler de ces choses-là. Mais nous, on est comme, c'est juste une idée, parce que c'est pas pantoute le contexte qu'on vit présentement. C'est quelque chose qu'on entend parler, mais on a de la misère à rentrer dans la peau d'une personne qui passe par là. Toutes ces affaires-là, c'est des choses qui se passent ailleurs. On n'est pas conscient. Même des fois, on entend parler qu'un frère ou une sœur souffre, puis on a de la misère à rentrer dans sa peau, puis à vraiment sentir ou à goûter, à compatir, à avoir de la compassion, puis à être conscient de ce que l'autre passe. Parce que ça se passe ailleurs, dans sa vie. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas c'est quoi. On peut se faire une idée, on peut essayer de se forcer à comprendre, Mais tant qu'on ne le vit pas, on ne le sait pas. Mais avec tout ce qui se passe présentement à New York, les Américains, quand ils vivaient dans une certaine prospérité, puis avec le contrôle un peu partout, puis il y a la technologie qui se développe, ils avaient atteint une certaine sécurité, un confort, puis une ambiance de paix qui régnait. Avec ce qui vient de se passer, la sécurité est menacée. Puis là, ça fait comme un ébranlement qui se passe, que les gens deviennent insécures, les gens deviennent comme dans la crainte, les gens deviennent comme désorientés, comme Sylvain disait dimanche. Ils voyaient les deux tours qui se sont effondrées, puis pour eux autres, c'est quelque chose qui faisait partie de leur quotidien, de voir ces choses-là. Puis quand ça a disparu, c'est quelque chose qui ébranle leur vie. On voit que les Nord-Américains qui se croyaient dans une sécurité, à cause de la paix qu'on vit depuis des dizaines et des... Parce que la guerre, 139-45, la dernière guerre, puis même encore, c'est quelque chose qui se passait là-bas, on en suivait des influences, mais quand même, le reste des citoyens étaient quand même dans la paix. Fait que les troubles, c'est même bien avant ça, ça fait des cinquantaines d'années, même plus, qu'il y a eu des guerres dans certains coins des États-Unis, ou même ici au Québec et au Canada, avec les Indiens, puis les Anglais, les Français, puis l'Église catholique contre les protestants, puis ainsi de suite. Il y a eu certaines guerres, de là peut-être 100 ans. Mais depuis ce temps-là, on vit dans une paix, puis il y a une sécurité qui s'est bâtie. Puis que ces gens-là, ils vivaient dans cette paix-là, étaient loin de se douter qu'est-ce qui était pour leur arriver. Ils comprenaient même pas, dans un sens, qu'est-ce que c'était que la souffrance. Puis d'avoir du deuil, d'avoir des insécurités qui vit dans leur cœur. Ils ne savent même pas s'il y a, parce qu'il y a plusieurs bâtiments de haute structure. Ils ne savent même pas si c'est la prochaine cible qui est visée, cette haute structure-là, qui est peut-être bâtie à côté de chez eux, ou c'est peut-être lui qui travaille dedans. Les gens, ils ont une crainte de s'en retourner travailler dans ces hautes structures-là, parce que c'est des cibles, des terroristes. Puis les Américains, avec leur technologie puis leur armement, ils n'avaient jamais pensé qu'une chose grave comme ça aurait pu leur arriver. Puis je crois que on est tellement environné de confort et de facilité que ça fait qu'on devient des gens qui sont fragiles aux situations de critique comme ça. Quand on nous parle que les Nord-Américains, qu'il y a le plus haut taux de suicide dans le monde, quand on se dit qu'on est la place la plus convoitée à vivre dans le monde, parce que le monde le sait, tu t'en vas vivre en Amérique du Nord, c'est la richesse, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la paix, puis c'est tout le monde convoite de venir rester ici. Mais nous autres qui vivons là-dedans depuis X années, on s'est arrangé, on vit dans un confort, dans une facilité, dans une sécurité, puis on est rendu fragile aux choses comme qui viennent de se passer. Ça nous ébranle, ça nous revire à l'envers. Quand j'ai parlé tout à l'heure des gens qui vivent dans d'autres pays, ils subissent des dictatures par des gens qui les maltraitent, qui les persécutent, qui les privent de nourriture, puis t'entends pas parler que les gens suicident dans ces lieux-là. Mais ici, les Nord-Américains, c'est le plus haut taux de suicide. C'est très facile à vivre, puis on se suicide. Les moins petites affaires nous affectent. On est tellement fragile, t'entends juste un mot que quelqu'un prononce de travers, puis on est tout reviré à l'envers. Puis on arrache pendant deux semaines à passer à travers. On est loin de vivre qu'est-ce qui se vit ailleurs. Puis ça, c'est une affaire qu'il faut prendre conscience, qu'on s'est habitué qu'une vie chrétienne nord-américaine, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, dans le vivre et laisser vivre, que c'est facile d'être chrétien, c'est une vie qui est prospérité puis abondance, puis il n'y a pas de persécution. Ça, c'est l'idée qu'on se donne aujourd'hui. Mais c'est pas la réalité. C'est juste un temps de paix que le Seigneur permet qu'on vive, mais on doit être conscient de notre fragilité. On doit être conscient qu'il faut travailler sur nous-mêmes afin de que notre vie puisse se renforcer aux différentes situations qu'on pourra avoir à traverser. Puis je crois qu'il y a même des chrétiens qui vivent les effets de ce confort puis de notre environnement de sécurité. Puis qu'on bâtit notre vie, on dit qu'on la bâtit par la foi. Mettons, la personne perd sa job, là, ça serait pas un temps de crise, mais on dit, c'est pas grave, il y a le chômage. C'est pas grave, il y a le bien-être social. C'est pas grave, il y a ci, c'est pas grave, il y a ça. Mais au lieu de dire, ben, mon Seigneur va pourvoir ce que j'en ai un autre, tu sais, commencer à prendre. Les gens dans les autres pays, ils n'ont pas de bien-être social, ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas d'assurance maladie. Juste pas loin, ça. Juste au Mexique, quelqu'un qui est malade, s'il n'a pas l'argent pour payer cash, il fait se faire son opération. Avant de rentrer, il ne rentre pas pour se faire opérer. Il ne rentre pas pour se faire soigner. Cela, ça fait de nous des gens qui ont de la difficulté à vivre les périls de la vie. Comme je disais tout à l'heure, un mot de travers, des fois, on est tout ébranlé. « Ah, cette sœur-là m'a jugé, ou ce frère-là m'a jugé. » Là, on y revient à l'envers, puis on a de la misère à remonter, on a comme une blessure, là, puis on a de la misère à remonter à la pente. Je pense parce qu'on n'est pas habitué de goûter la misère. C'est trop facile aujourd'hui. Mais ça peut être un piège, ça. Je crois que le Seigneur, ce soir, veut nous dire que nous devons mettre... faut pas mettre nos regards dans ce qui nous entoure, dans notre sécurité matérielle, dans la sécurité que le gouvernement peut nous offrir, dans la sécurité que le siècle d'aujourd'hui peut nous montrer, mais qu'il faut apprendre à mettre nos regards sur Lui. Parce que si on n'apprend pas à mettre nos regards sur Lui, quand ça va bien, comment est-ce qu'on va faire quand ça va venir, que ça va aller mal? C'est sûr, quand ça va bien, on va se dire, « Ouais, mais qu'est-ce que je vais y demander? J'ai tout. » Peut-être qu'on a tout, mais il faut apprendre quand même à se confier dans le Seigneur, même quand on a tout. Parce qu'il va venir peut-être un temps où on n'aura plus rien et qu'on n'aura pas appris à se confier dans le Seigneur. Moi, je crois qu'on n'a encore rien vu des choses, des problèmes qui vont arriver dans ce monde. Quand on parle des sceaux dans l'Apocalypse, les sceaux qui vont être relâchés, c'est avant le trône de la bête. Il parle de tremblement de terre, il parle de famine, il parle de pollution, ça parle de cataclysmes de toutes sortes. Puis dans Matthieu 24 aussi, il y a plein de ces cataclysmes-là que la Bible nous parle. Je ne ferai pas un cours sur les diverses cataclysmes qui doivent arriver, mais la chose qu'on doit se dire, la sécurité qu'on vit aujourd'hui, il faut en profiter pendant que ça part, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. On n'a encore rien vu encore, c'est quoi avec des problèmes. Ça nous en parle même dans les Actes que l'Église de Jérusalem vivait un temps de paix, puis l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais il est arrivé d'autres moments où la persécution a rentré dans Jérusalem, puis les chrétiens ont été obligés de sortir de la ville, puis ils ont fui dans d'autres villes, puis ils s'en allaient en continuant en évangélisant les autres villes. Ça les a pas arrêtés, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué à persévérer. Malgré tout ce qui peut arriver autour de nous, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Que Jésus a dit, vous en entendrez parler de guerre puis de bruit de guerre. Ça, c'est dans Luc 21, verset 9. Mais il dit, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Là, on entend parler de bruit de guerre. Il y en a des guerres dans certains pays, mais là, c'est bien plus proche, les bruits qu'on entend, là, ça se prépare, c'est juste sur le bord. On entend parler, les médias parlent rien que de ça, tu me sens n'importe quel poste, puis ils parlent de ça. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre puis de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses-là arrivent. Jésus s'inquiète de ce que nous vivons intérieurement. Quand il nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ça c'est dans Jean 14, 27, c'est pas pour la perdre cette paix-là en se troublant avec ce qu'on entend, ce qui vient de la radio puis de la télévision. Jésus veut pas qu'on se trouble, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais il ne nous l'a pas donné pour qu'on commence à se déranger dans notre paix en écoutant ces choses-là, en se nourrissant de ces choses-là. Il s'inquiète avec ce qu'on vit, il veut qu'on garde notre paix intérieure. Il veut qu'on regarde à lui parce que la source de notre paix, elle vient du Saint-Esprit. Il veut pas qu'on regarde qu'on ait une paix à cause qu'on vit dans la sécurité autour de nous autres. Il veut qu'on apprenne à regarder en lui puis que se dire que notre sécurité, notre paix vient de Dieu. Parce que dans Galates 5, 22, ça nous dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Fait que notre paix nous est donnée par le Saint-Esprit. Notre trouble va nous être donné parce que le monde nous véhicule par les médias. Ou même qu'est-ce qu'on peut se dire un à l'autre. Jésus, il a même annoncé qu'il y en aurait des tribulations contre les chrétiens dans le monde. Dans Jean 16, verset 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça, c'est Jean 16, 33. Il dit, « J'en aurai des tribulations dans le monde, mais je vous le dis afin que vous ayez la paix en moi. » Le Seigneur veut encore qu'on se confie en lui pour garder notre paix. Sommes-nous surpris d'entendre que des chrétiens peuvent avoir des tribulations? Dans l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 4, ça nous dit, « Je vis des trônes. » Ça nous parle à la résurrection. « Et à ceux qui s'y assirent, il fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus puis à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main, puis revinrent à la vie puis régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ça, c'est une image d'un texte qui nous parle que les chrétiens, c'est des gens qui vivent des souffrances. Ces gens-là avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Puis il y en a, puis c'est plein de monde qui ont passé par des persécutions et des souffrances. Même encore plus que ça, la Bible a dit que nous sommes destinés aux tribulations à cause du royaume. Ça, c'est une vraie réalité, même si on la vit pas aujourd'hui. C'est une réalité qui nous est enseignée dans la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset de 1 à 5, il dit, « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affirmer et pour vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. » C'était le cœur de Paul, ça. Il s'inquiétait de cette église-là qui vivait des tribulations. Puis il dit, « Là, j'ai envoyé Timothée aller vous parler pour vous exhorter puis vous encourager, afin que personne ne soit ébranlé dans ces tribulations-là qu'il est en train de vivre. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » On est destinés à cela, les tribulations. C'est les paroles que Paul se sert pour encourager ces chrétiens-là qui vivaient les tribulations. On est destinés à en vivre des tribulations. Puis il dit, il continue, « Et lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Ça l'inquiétait, Paul, de voir que ces chrétiens-là vivaient des tribulations. Puis il leur écrit une lettre, puis il leur dit, « Là, je vous le dis, on était destinés à ça, des tribulations. J'envoie Timothée avec vous autres pour vous encourager, pour vous continuer à persévérer dans vos tribulations. Je l'envoie, il m'informer de qu'est-ce qui se passe avec vous autres. Est-ce que le tentateur vous a tenté dans vos tribulations? » Parce que des fois, on se dit, « Ouais, quand ça va bien, on n'a presque pas de tentation. » Mais quand ça va mal, le tentateur vient. Quand on a des pensées de suicide, quand ça va mal, vous savez, vous pensez que ça devient ça. Quand on a des pensées de ne plus aller à l'Assemblée, quand ça va mal, vous savez, vous pensez que ça devient, c'est le tentateur qui vient vous tenter. Quand vous avez des pensées de tout abandonner, de tout garocher, c'est le tentateur qui vient vous tenter quand ça va mal. Dans ce temps-là, il faut dire, arrière de moi, Satan, je continue, je persévère. Je sais, je suis destiné à avoir des tribulations, mais je vais continuer. Puis avec les tribulations, mais le Seigneur va me donner la force et les moyens d'en sortir afin que je puisse les supporter. Jésus, les apôtres, les disciples ont été persécutés. Paul y rajoute dans 2 Timothée 3, le verset 10 et 11, il dit, pour toi, il parle à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ce qu'on peut vivre aujourd'hui en fait de problème, en fait de persécution, en fait de tribulation, on n'est pas les seuls à avoir subi ces choses-là. Il dit de résister, il dit sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous nos frères dans le monde. Ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand ça va mal, il n'y a rien de nouveau. Ça a déjà été mal pour d'autres chrétiens. Mais ils sont accrochés au Seigneur, puis même Paul, il dit, laquelle des persécutions que je n'ai pas supportées, puis le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul, il avait ses regards sur le Seigneur. Il était capable de passer à travers n'importe quoi parce qu'il avait les regards sur le Seigneur. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça fait partie aussi de, je puis tout supporter, toutes les tribulations à cause de celui qui me fortifie. Dans les accidents ou les actes terroristes, il y a des chrétiens qui passent par là. Il y avait des chrétiens dans ce building-là. Ils ont subi la mort. Leurs familles ont été éprouvées. Fallait-tu qu'ils abandonnent le Seigneur à cause de ça? Non. Fallait qu'ils apprennent à regarder au Seigneur puis passer à travers de leur situation. La même chose que nous. Ça va bien là, mais ça peut commencer à aller mal. Si ça commence à aller mal, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à regarder au Seigneur, aller chercher notre force dans le Seigneur, notre paix dans le Saint-Esprit, afin d'avoir la force de passer à travers. Que penser au niveau de la persécution subie par d'autres chrétiens dans d'autres pays présentement? J'ai lu un article dans la sélection du Reader Digest, il parlait des chrétiens qui eux autres évaluent, je pense, une affaire comme 200 millions de chrétiens qui vivent dans persécution actuellement. C'est sûr qu'eux autres qui incluent l'Église catholique, mais il y a des chrétiens évangéliques aussi. Tout ce qui fait partie de qui n'est pas musulman, ils considèrent ça le chrétien, là, mais ils évaluent à 200 millions de personnes présentement qui croient en Jésus, qui parlent de Jésus, qui vivent des persécutions, qui subissent la mort présentement. Dans d'autres pays. On ne doit pas avoir d'autre attente que celle que Jésus a eue. On ne doit pas avoir d'autre attente que celle que Jésus a eue. Jésus, dans Jean 15, 20, il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Quand tu rencontres quelqu'un qui est en guerre contre Jésus, il va être en guerre contre toi. Puis si c'est quelqu'un qui aime Jésus, qui a accepté Jésus, qui croit en Jésus, il va croire en ce que tu lui dis. On n'est pas plus grand que Jésus. Il ne faut pas s'attendre à cause que le gars il haït Jésus puis qu'il va nous aimer. Il ne faut pas avoir d'attente au-delà de ce que Jésus dit. Il dit, le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître. Jésus, il a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Ça fait partie de la vie chrétienne. Paul nous parle de la raison pour laquelle que nous vivons des persécutions ou que nous allons en vivre des persécutions. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 8-11, il dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Persécuté, mais non abattu. Non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Les persécutions arrivent aux chrétiens parce que c'est à cause de Jésus. Jésus dit, je ne le dirai pas tout de suite, ça enlève de punch de mon autre verset. Jésus dit qu'on est sans cesse livré à la mort. Ça, c'est Paul qui dit ça, excusez. C'est Paul qui dit on est sans cesse livré à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps charnel. Si vous vivez des problèmes aujourd'hui, si vous vivez des persécutions, si vous vivez des angoisses, des tribulations, des craintes, des tourments, des attaques de l'ennemi, tout ça, là, tout ce qu'on peut vivre de négatif, c'est dans le but que la vie de Jésus soit manifestée en vous. Et comment est-ce que la vie de Jésus va pouvoir être manifestée en vous si on n'a pas les regards sur Jésus pour aller chercher la force de Jésus pour être capable de passer à travers? Il faut apprendre à se confier dans le Seigneur et à aller puiser les forces en lui afin d'être capable de vivre la vie de Jésus en nous dans toutes les circonstances. Jésus a même dit de se réjouir lorsqu'on va en vivre des persécutions. Dans Matthieu 5, les versets 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce qu'on peut vivre, là, des fois on entend, tu vois, c'est un chrétien, il est ici, il est ça, il n'a pas d'allure, puis il va à l'église, puis il donne de son argent, puis toutes les critiques que le monde peut faire, il dit de se réjouir de ça. Il ne faut pas tomber abattu puis démoralisé. Il faut se réjouir. Parce que c'est la même chose que tous les prophètes qui ont été avant nous autres, qui ont passé à travers de ça. Puis en plus, il ne faut pas oublier les promesses que le Seigneur nous a dit. Il y a des récompenses. Dans 2 Corinthiens 4, 17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Chaque petite affliction qu'on peut subir aujourd'hui à cause du nom de Jésus, ça produit un poids éternel de gloire. Ça va produire de la gloire dans nos vies. On va être glorieux l'autre bord, puis un poids, pas juste une petite affliction qui produit une petite récompense. C'est un poids puis qui est éternel. C'est une récompense glorieuse, éternelle, qu'on va avoir à chaque affliction. Il y a de quoi à s'encourager là-dedans. Il y a de quoi à s'encourager à passer à travers des petites affaires qu'on vit de tous les jours. Puis s'il en arriverait des plus pires, parce que c'est dit que ce serait supposé qu'il nous en arrive des plus pires, mais qu'on soit capable de passer à travers aussi, se disant qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Dieu veut en plus, il nous a promis qu'il veut nous délivrer de toutes nos détresses. Dans le psaume 34, 17, ça nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toutes leurs détresses. » Quand je disais tout à l'heure, ça va mal, faut pas regarder autour puis tu as pogné un dent, faut regarder en l'air, puis s'accrocher au Seigneur, aller chercher sa force, aller chercher son secours, en commençant à lui demander, Seigneur, il y a tel et tel besoin dans ma vie, tel et tel problème, puis là on s'appuie sur lui, puis on s'attend qu'il pourvoie, puis il a promis de pourvoir, il a promis qu'il nous délivrerait de toutes nos détresses. Devenir chrétien, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes. Mais c'est que le Seigneur va nous aider à passer à travers. Hein? Devenir chrétien, c'est pas qu'on n'aura plus de problèmes, mais c'est qu'on va avoir le Seigneur qui va nous aider à passer à travers. En nous communiquant sa force, en nous donnant aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse les supporter. Dieu, il prend soin de nous, puis il veut nous consoler dans nos tourments, dans nos problèmes. 2 Corinthiens 1, le verset 3 à 7, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Le Père nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Puis le verset 7, ça nous dit, « Et si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Parce que c'est une chose qui est garantie que Dieu, si on regarde à lui, il va nous secourir dans toutes nos détresses, puis il va nous consoler dans toutes nos afflictions. C'est promis. Si on regarde à lui, si on ne regarde pas à lui, puis on se met à critiquer, puis on se met à embarquer dans les affaires qui nous entourent, on perd notre paix, on perd la force, on perd le moyen d'en sortir, on perd la consolation qu'on aurait eue pour passer à travers, puis là, on pogne un dame. Si on veut s'en sortir, c'est le contraire. Il faut commencer tout de suite à regarder au Seigneur et commencer à crier au Seigneur. Il dit quand c'est les justes, crient que l'Éternel les entend et qu'il les délivre de toute leur détresse. Pas crier après personne, crier auprès de Dieu pour le secours. Une fois qu'on a été consolé par Dieu, nous pouvons consoler les autres, que ça nous dit dans le verset 4. Parce que c'est le plan de Dieu qu'on commence à se consoler les uns les autres. qu'on commence à prier les uns pour les autres, mais aussi se consoler. Qu'on se prenne dans nos bras, puis qu'on se dise qu'on s'aime, puis qu'on compatit avec la souffrance de l'autre, parce qu'on le sait que ça fait partie. On apprend à connaître les souffrances des autres, puis à communier avec les autres, puis à partager, à pleurer avec ceux qui pleurent. Dieu, il n'est pas injuste pour oublier tous nos efforts. Dans Hébreux 6, 10, il dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » C'est à cause de son nom qu'on va vivre ces persécutions-là. Vous n'en voulez plus de persécutions? Lâchez le Seigneur. J'aurais plus de persécutions. Mais là, je ne vous dis pas de lâcher le Seigneur. Je vous dis de vous regarder au Seigneur. Mais c'est vrai que les persécutions du royaume sont à cause de son nom. Et tant qu'on il dit, même dans ceux qui avaient entendu, ils avaient reçu la parole dans des endroits pierreux, il n'y avait pas de racines dans leur vie. Ils n'ont pas pu étendre une racine pour aller tirer à sève pour avoir la force. Ça nous dit, dès que est survenue une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Faut pas être de ces gens-là. Faut être des gens qui ont des racines et qui s'enracinent dans le Seigneur pour aller chercher la sève. Il va arriver des tribulations, des persécutions, mais on continue à persévérer jusqu'à la fin. Où est-ce qu'on va chercher notre consolation? Où est-ce qu'on va chercher notre paix? Où est-ce qu'on va chercher du repos quand tout va mal autour de nous? Où est-ce qu'on va chercher la force de résister dans les tribulations qui peuvent nous arriver? On va la retrouver dans notre temps de recueillement, tant qu'on est dans la présence de Dieu. Parce que notre paix, notre force, elle vient de son Saint-Esprit. Si on prend du temps à l'écart, puis on se recueille avec le Seigneur, puis on communie avec lui, on y partage qu'est-ce qu'on vit. Sa grâce descend, sa force descend, puis on a la porte d'en sortir, puis on a aussi la consolation qui vient avec ce qu'on vit. Et le Seigneur est pourvoit pour nous délivrer de toutes nos détresses. Il faut aller chercher ce temps de paix-là qui vient dans notre temps de communion qu'on a avec lui. Chaque jour, il faut se laisser remplir de sa paix et de sa force. Quand Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il avait atteint un niveau de force inébranlable qui était capable de passer à travers de n'importe quoi. Quand il disait tout à l'heure « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? » Il dit, et le Seigneur m'a délivré de tout. Le Seigneur m'a délivré de tout. Parce qu'il allait puiser, il recevait, il passait à travers. Puis après ça, il pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, quand on va prendre un temps de louange, recueillez-vous dans la présence du Seigneur. Quand on prend un temps de prière, allez chercher la force que vous avez besoin pour passer à travers de ce que vous vivez aujourd'hui. Je pense que qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est pour comme annuler l'effet de qu'est-ce qui se passe présentement, parce que les troubles que ça vous communique par la radio, la télévision, le Seigneur veut annuler cet effet-là. Il dit, j'en entendrai parler, mais gardez-vous d'être troublés. Il faut que ça arrive, puis continuez à aller puiser en lui pour avoir la force.